Noir c'est Noir spécial Jérôme Leroy. Alors nous recevons à PFM Jérôme Leroy, écrivain qui vit dans la région, que l'on rencontre régulièrement à Arras. Il est conseiller littéraire de l'association Colère du Présent. Il est membre du jury du prix Amila Mecker, prix décerné à Arras le 1er mai à l'occasion du salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. À ce titre, Jérôme, on se rencontre régulièrement et c'est pour cette raison que nous n'allons pas changer nos habitudes. Et même si c'est pas très déontologique du point de vue radio, je te propose, si tu es d'accord, que nous tutoyons.
Mais bonsoir, oui, bien entendu, j'ai pas de problème.
Bon, alors nous recevons. Alors je dis nous, puisque bon, je suis aussi avec Jean, qui a lu le dernier roman de Jérôme Leroy, et nous recevons Jérôme à l'occasion de la sortie d'un roman qui fait pas mal parler de lui, Le Bloc, Gallimard, série noire. Sachez que cette émission, cette rencontre est enregistré ce samedi 29 octobre à l'occasion du passage à Arras de Jérôme Leroy pour une signature dans une librairie de la ville. Alors et merci aussi, puisque bon, j'en suis aux présentations, merci à Boris qui assure la technique de cette émission spéciale. Le Bloc, dernier roman donc de Jérôme Leroy, Le Bloc, roman de politique fiction. Peut-être pas si fiction que cela, on y reviendra. Nous sommes dans le roman au cours du deuxième mandat, si j'ai bien compris, d'un président inspiré clairement par le président actuel. Nous sommes dans une situation de chaos social important dans les banlieues explosent, bien plus que ce qu'on a déjà connu. Il y a, au niveau des médias, il y a les morts, le nombre de morts qui est annoncé tous les jours et qui augmente tous les jours, on en est à plusieurs centaines, donc une situation de chaos social. Et le Bloc, une organisation politique d'extrême droite, bon, c'est pas la peine de faire un dessin, on pense tout de suite au Front National, est en négociation pour entrer au gouvernement et quelque part faire le ménage dans le pays. Donc voilà le contexte. Alors La particularité de ce roman, c'est que, Jérôme, tu as choisi de te glisser dans la peau de deux membres importants du Bloc, de ce parti, et c'est ça quand même qui peut surprendre dans un premier temps le lecteur. Alors ces deux membres, il y a une éminence grise, Antoine Ménard, écrivain au service du Bloc, et surtout le mari d'Agnès Dorgel, la présidente du Bloc, et la fille de son père. Donc là aussi, on repère bien les personnalités politiques que l'on connaît en France. Donc premier personnage, Antoine Ménard. Et un deuxième personnage, Stanko, qui lui est responsable du service d'ordre du Bloc. Bon, sachant que, alors, bien entendu, on a deux facettes, de l'engagement dans une organisation d'extrême droite comme le Bloc, une éminence grise, l'intellectuel et l'homme de main, mais ce sont deux personnages qui sont proches l'un de l'autre et qui se croisent aussi du point de vue de leur engagement dans cette organisation. C'est-à-dire que Stanko, qui est responsable du service d'ordre, eh bien, a une certaine, finalement, une certaine vision politique de la situation. Et l'éminence grise, l'intellectuel, Antoine Ménard, aime bien aussi aller sur le terrain et en découdre. Donc voilà, pour le cadre. Alors maintenant, avec Jean, on va rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être pour commencer. Première question, Jérôme. Alors c'est vrai, dans le polar, il y a des auteurs qui se mettent dans la tête de tueurs en série, de flics pourris, etc. Mais comment on en vient à se mettre dans la peau de fachos, ennemis politiques clairement, ouais, pour toi, entendu, oui. Jérôme, on va, Ce n'est un secret pour personne. Tu as un engagement politique Parti communiste. Donc comment on en arrive à... Comment tu en es venu à te avoir ce projet littéraire de te glisser dans la peau, dans la tête, hein, dans la peau de deux fachos?
Le projet littéraire, au départ, c'était... ce à quoi tu fais allusion sur dans quoi je me glisse, c'est une question de méthode. Pour un projet que j'avais, qui était d'essayer de comprendre comment on en était arrivé là. C'est-à-dire que tu as parlé d'un deuxième quinquennat, mais ça pourrait être aujourd'hui. Enfin, moi, je vois plutôt ça comme un présent alternatif, un présent possible. Mon idée était quand même je pars d'un constat qui est qu'on est dans une société qui remplace progressivement, par exemple, la question ethnique par la question sociale, et une société où se fabrique au plus haut niveau du pouvoir la peur. On est dans une société profondément anxiogène, et donc une société qui se déteste, où tout le monde a peur de tout le monde. C'est par ça que je commence. Le symptôme le plus clair, pas l'origine d'ailleurs à mon avis, le symptôme le plus clair de ça, c'est une montée en puissance de l'extrême droite dans notre pays. Et le deuxième symptôme, c'est comment elle est blanchie idéologiquement. Et c'est pas moi qui la blanchis idéologiquement, c'est pas les écrivains, c'est personne, c'est les médias. On voit à quel point depuis quelques mois, quelques années, on commence à finalement dire ce sont des gens comme les autres. Alors moi j'ai pris le défi d'effectivement voulant faire un roman qui parlait de ça, qui parlait des 30 dernières années, parce que finalement le roman se déroule le temps d'une nuit, mais couvre une structure de couvre une trentaine d'années. Je voyais pas d'autre solution parce que il y a une certaine littérature antifasciste qui me fatigue un petit peu parce qu'elle est en permanence, et d'ailleurs on pourrait transférer ça dans le plan politique, elle est en permanence dans la posture de la donneuse de leçons, voire d'un manichéisme qui me semble profondément contre-productif. Moi, la meilleure façon d'appréhender la bête, c'est effectivement de me glisser dans sa peau. Alors après, on peut faire semblant de ne pas comprendre. C'est un livre qui est facile à ne pas comprendre, d'une certaine manière. Ceci étant dit, moi je ne voyais pas autrement pour éviter absolument, parce que je ne veux pas être dans la position du prêcheur, voire de l'écrivain engagé. En tant que citoyen, c'est autre chose, ça on peut en discuter. Mais au moment même où j'écris, je ne veux pas être dans la position du donneur de leçons, dans la position de quelqu'un qui fait du catéchisme. Et le meilleur moyen pour moi, parce que si on écrit à la troisième personne, on est très vite tenté par moment... par des réflexions d'ordre général qui sont des réflexions qui n'appartiennent pas à la littérature et qui appartiennent davantage au champ du politique. Et donc, on fait de la morale, en fait. Et la morale en littérature, c'est une catastrophe. Donc, effectivement, j'ai décidé de me glisser dans la peau de deux salauds, qu'ils sont d'ailleurs à deux niveaux différents, sachant que celui qui est le plus violent n'est pas forcément le plus coupable dans cette histoire. Et puis voilà. Alors, j'allais dire, certainement pas au risque de la sympathie, au risque de l'empathie, mais c'est complètement différent, qui est effectivement de s'apercevoir que ces gens-là sont d'autant plus dangereux que ce sont des êtres humains. C'est-à-dire, c'est pas comme dans la littérature, une certaine littérature antifasciste, d'ailleurs pas tous, faut pas généraliser, mais un certain polar antifasciste qui est dans le confort intellectuel, à mon avis, présente le facho de base comme une espèce de robot venu de la planète Hitler. Ça serait rassurant. Mais c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus dangereux. Voilà.
Alors, on va revenir sur tout ça. Moi, je voudrais quand même éclaircir quelque chose. Bon, on se connaît. Alors, effectivement, tout lecteur ne te connaît pas forcément, connaît pas ta bio. Bon, cette émission, ça peut être aussi l'occasion d'y revenir. Mais on reconnaît dans des éléments de biographie communs à un des deux personnages, Antoine Ménard, et à ta propre, parcours, donc déjà la ville de Rouen, les études de lettres, l'écriture, hein, bon, c'est Antoine Ménard, c'était un écrivain,
un écrivain vraiment raté, pour le coup.
Raté, bon, donc ça, oui, il peut y avoir peut-être...
J'espère, en tout cas,
mais bon, Saint-Cyr, etc.
Oui, alors, Saint-Cyr, on va aussi mettre point à une légende, j'ai fait mon service, parce que j'ai lu dans Le Monde, ils sont avec une critique au demeurant gentil, mais j'ai fait Saint-Cyr, ce qui supposerait que je suis une espèce de gars à chaco et aux cheveux rasés. Non, j'ai fait mon service militaire à Saint-Cyr. Donc effectivement, moi je suis écrivain, j'avais 23 ans à l'époque, c'est-à-dire là que j'ai écrit mon premier roman. J'ai regardé en détail. Moi je me documente. Par exemple, sur l'exemple de Rouen. Finalement, des Ménards, j'en ai connu. Mais de même que j'ai connu les Stanco, à la limite, sur les travées de Valenciennes, l'année où j'ai enseigné.
On peut quand même expliquer rapidement.
Oui, donc, rapidement.
Tu es originaire de
Moi, je suis originaire de Rouen.
J'ai fait mes études à Rouen,
et après le service militaire, en me trouvant avec mon concours de prof sous le bras, comme beaucoup de gens, je suis parti, je me suis retrouvé en premier poste dans le Valenciennois, à Vieux-Condé, justement. Voilà. Et puis j'y suis resté, la preuve, c'est que je suis là et je suis très content d'y être resté. Ceci étant dit, pour les deux personnages, mes deux itinéraires biographiques m'ont servi. C'est-à-dire qu'effectivement, ma jeunesse rouennaise, bien sûr que j'y prête certains de mes goûts, bien entendu. Mais enfin, en même temps, comment je peux faire... Enfin, c'est des montages en même temps. Même, par exemple... Tu as dit oui, on peut retrouver des personnages existants. Enfin, à la limite, c'est un roman à clé. Oui et non, c'est-à-dire que moi, j'espère que dans 20 ans, si des gens sont encore en train de lire et qu'on s'intéresse un petit peu à ce que j'ai fait, le roman paraisse toujours aussi actuel, parce que ce que le roman décrit, c'est comment on dérive idéologiquement. Le roman, c'est comment une société entière est prête à se donner à n'importe qui. Donc il se trouve que ça s'incarne aujourd'hui de manière très précise, que moi je me suis effectivement inspiré de l'histoire de l'extrême droite ces 30 dernières années, mais encore une fois, je voyais pas comment mettre ça en scène sans y mettre un peu de chair, un peu de sang. Et effectivement, c'est ma chair et c'est mon sang. Mais c'est encore une fois, il y a de l'empathie, mais il n'y a pas de sympathie. Si quelqu'un trouve à la fin du livre un de mes deux personnages sympathiques, qu'il m'écrive, parce que effectivement, c'est difficile.
Oui, Jérôme, là, dans ce livre, tu fais un choix littéraire. Quand tu parles de Stanko, donc l'un des deux héros, c'est je. Tu emploies le je. Et. À la limite, je trouve que c'est pas gênant, c'est dérangeant, évidemment, parce que spontanément le lecteur a tendance à se mettre dans la peau de la personne qui est décrite dans le livre, mais en même temps, ça incite le lecteur à une certaine veille, à une certaine vivacité d'esprit pour dire non, attends, là, il est clairement raciste, c'est je, mais c'est pas moi. Donc là, il y a un réflexe spontané du lecteur qui est à mon avis positif. Où je suis plus, je m'interroge beaucoup plus, c'est sur le tu avec Ménard, l'écrivain. Là, donc, c'est plus je, c'est tu. Qui s'adresse à ce deuxième héros, c'est forcément Jérôme Leroy. Et là, s'instaure une espèce de dialogue. Proximité entre deux écrivains, en plus, avec les éléments biographiques qu'a rappelé Guy, qui instaure une espèce de...
D'ambiguïté.
Et en plus, si tu mêles à la description de ce que pense, que dit Ménard, des réflexions critiques sur le monde d'aujourd'hui, d'après, le monde d'avant, directement influencé par les écrivains comme Baudouin de Bodinma, enfin,
tout à fait,
l'encyclopédie des nuisances. Ce qui fait que là, il y a une certaine ambiguïté. Alors bon, je pense que on peut pas transformer le tu en vous. La première phrase du livre, c'est finalement tu es devenu fasciste à cause du sexe d'une fille. Finalement, vous êtes devenu, non, ça va pas.
Non.
Et il aurait fallu que ce soit il. Alors là, il y a un choix quand même d'écriture qui peut poser problème.
Oui.
Qui m'a posé problème.
Qui t'a posé problème. Je pense tout à fait que ça puisse poser problème. Moi, ce qui me fascine profondément dans le tu ou la deuxième personne, t'as raison, le vous pouvait pas marcher, mais je crois que ça aurait pas changé grand chose au problème. J'aurais pas eu plus de distance parce que c'était vous. Le tu, moi, c'est celui qu'on trouve chez Butor, la deuxième personne en tout cas qu'on trouve chez Butor, qu'on trouve chez, même chez Apollinaire. C'est aussi une façon d'attraper mon lecteur par le col aussi, parce que le tu du lecteur, t'as dit, il y a un dialogue entre toi et entre le narrateur et l'auteur, finalement, entre Ménard et Leroy. C'est aussi un dialogue forcé ou une entre Ménard. C'est le tu ne cesse de dire ce que je me suis dit moi-même, ne cesse de dire au lecteur, toi aussi tu pourrais être Ménard. Toi aussi tu aurais pu être Ménard. Voilà. Et ça, après, on accepte ou pas d'avoir cette part en soi. Moi, Ménard, c'est très, très précisément, on parle beaucoup d'autofiction, c'est très précisément une alter-fiction. C'est-à-dire qu'il aurait pu, pourquoi pas, on sait jamais, j'ai pas assez d'anticorps politiques dans le sang, et tout d'un coup, on fait n'importe quoi par dandysme mal placé quand on a 17 ans. Parce que c'est quand même, c'est pour ça que lui est d'ailleurs beaucoup plus impardonnable que Stanko, parce qu'il n'est pas pensé par les mêmes déterminismes. Ménard, il pourrait très bien, moi j'en ai connu des Ménards. Tout simplement, j'en ai connu des Ménards, et je le raconte dans le roman, qui se trouvent au bloc, je dirais exprès le bloc patriotique à chaque fois, bien avant que celui-ci fasse ses premiers scores électoraux. C'est-à-dire qu'ils le sont par une espèce de dandysme mal placé, d'une panoplie littéraire proche de Drieux, très souvent. C'est-à-dire qu'ils y croient même pas vraiment. C'est pas des fous furieux. Voilà, ils font ça pour emmerder le monde. C'est une espèce de punkitude fascisante, mal digérée. Et ça, il faut savoir que c'est justement ces gens-là qui sont d'autant plus impardonnables. Mais moi, j'avais besoin de ce point de vue et de parler de cette manière-là parce que je veux aussi que je veux. Ça, c'est aussi des discussions que j'ai souvent à propos de qu'est-ce que c'est qu'une littérature populaire ou pas. Je ne me fais hélas pas trop d'illusions sur le fait que ce roman est plutôt lu par des gens qui sont sociologiquement identique à moi, et pas spécialement par les classes populaires, on va quand même être honnête, c'est de cet ordre-là.
Il faut un décodeur pour...
Donc effectivement, moi je pense que de toute façon, je tiens à ce que ces gens-là, parce qu'évidemment, Stanko, dans les gens qui lisent des polars, personne va se prendre pour Stanko. Enfin, personne ne dira, ça c'est tellement loin de moi. Par contre, si je mets Ménard comme je, ou alors il, encore pire, à ce moment-là, tout le monde va dire « Ah ben non, mais Ménard, c'est pareil, c'est pas moi ». Eh ben, le problème, c'est que c'est une tentation qui peut, quand on a 18-19 ans, qu'on a envie d'emmerder le monde, etc., c'est de et qu'on est pourtant rien pour le faire, etc., c'est de pour faire chier, de voir dans l'extrême droite une forme de provocation. Alors après, mon personnage, en plus, il tombe follement amoureux. Donc ça, ça complique les choses.
Et ce qui peut le rendre aussi sympathique.
C'est le problème de la sympathie. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire un roman où tous les fascistes ont l'air méchants et sont bas du front. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire que toute l'erreur à mon avis, du manichéisme, du catéchisme, d'un certain roman noir, antifasciste, entre guillemets, ce roman noir, finalement, caricature tellement. Mais non, le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas forcément antipathiques, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Ils peuvent être cultivés, ils peuvent être drôles, ils peuvent être, voilà, il s'agit pas. Alors, après, moi, j'ai décidé de parler de ce qui existe, de ce qui est. Après, je pouvais faire un autre livre qui aurait été de montrer que c'était des parfaits salauds vus de l'extérieur, etc. Ce sont de parfaits salauds. Ce sont de parfaits salauds. Même au sens sartrien du terme, notamment pour Antoine, ce sont de parfaits salauds. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on est un parfait salaud qu'on n'est pas un type qui aime boire du vin, qui peut être fou amoureux et qui aime bien la littérature. Il faut être capable de convoquer quand on est écrivain, enfin Léry s'appelait ça l'ombre de la corne du taureau, mais être capable de convoquer sa part de négatif, faire un travail du négatif avec soi-même, c'est indispensable.
Mais je pense que bon, ce souci de ne pas tomber dans le manichéisme ou la simplification facile est tout à fait louable. Mais par exemple, dans le personnage de Stanko, il y a un certain nombre de comportements qui sont clairement racistes, qui sont dits. Antoine Ménard, c'est beaucoup plus feutré. Ça n'apparaît pas. Par contre, apparaît une forme de violence qui, elle, on ne s'explique pas. Elle peut pas venir d'une position de dandysme dans la société.
On se bat quand on est un voyou, on se bat quand on est un prolo à la sortie des balles. Théoriquement, un enfant de la bonne bourgeoisie démocrate chrétienne de l'ouest de la France va pas se bastonner. Donc ça aussi, c'est une forme de ce rapport à la violence, à une violence physique. Alors il est pas raciste, mais il est pas raciste parce que faut savoir aussi que le racisme, le seul racisme théorisé à l'extrême droite, C'est celui extrêmement dangereux de Louise Burgos dans le roman, c'est-à-dire parce que je raconte aussi comment il y a un choc de culture entre deux extrêmes droites en France, mais qui courent leur histoire et qui d'ailleurs, Dieu merci pour nous, à un moment donné, ils se foutent tellement, on connaît les grandes scissions de l'extrême droite ces dernières années, c'est des scissions qui permettent d'ailleurs à chaque fois quand même de ralentir, de rendre résistible l'ascension. Mais qui est quand même une ascension. Ménard appartient à une extrême droite qui n'est, je pèse mes mots, qui est une extrême droite old school, une extrême droite d'aventurier, et qui n'est pas plus raciste que ça. C'est-à-dire que même un célèbre leader d'extrême droite, quand on regarde d'un peu près les biographies, quand on regarde d'un peu près le racisme, il s'en fout. Les déclarations sont de la provocation pour c'est-à-dire il y a pas de théorisation. Ils s'en foutent en fait. Ils s'en servent éventuellement. De manière démagogique. Par contre, là où il y a effectivement, il joue sur des pulsions extrêmement basses, extrêmement violentes, et ça marche, ça accroche une certaine partie de classe populaire qui se sentent totalement abandonnées. Mais ils sont, de toute façon, ça sera infiniment moins dangereux que ce racisme technocratique qui a été incarné, par exemple, par des hommes politiques dans des clubs de réflexion qui ont toujours servi au cours des années 60, depuis les années 70, de passerelle, justement, en essayant à la fois, et qui, eux, ont clairement une vision raciologique de la société et qui, d'un point de vue économique, sont ultra-libéraux. C'est-à-dire que ceux-là, c'est ceux qui, tous les 10-15 ans, tentent de prendre le contrôle de cette espèce d'extrême droite française qui a un côté, je dis, foutraque. Faut pas la sous-estimer, mais quand on regarde de près, pas si dangereuse que ça. Par contre, ces idéologues-là, froids, etc., qui à chaque tout tentent à chaque fois un moment de blanchiment idéologique. Moi, ce que je raconte aussi, c'est l'histoire d'un blanchiment idéologique. Dans ce livre. Comment l'extrême droite est blanchie idéologiquement. Il faut savoir que c'est ce qui se passe aussi dans la réalité. C'est-à-dire que si maintenant la montre présentable, c'est que ces gens-là sont à nouveau dans l'entourage des leaders, sont revenus et continuent à la fois derrière un faux discours social attrape-nigaud qu'on connaît dans la région, derrière ce faux discours social, réamènent leur conception froidement technocratique. C'est souvent des gens sortis des grandes écoles, hein, faut pas oublier. C'est pas des anciens mercenaires, c'est pas des anciens des guerres coloniales, c'est pas des. Voilà, il y a un choc culturel très clair. Et puis bon, bah par exemple, à travers les yeux de Ménard notamment, qui comprend les tenants et les aboutissants, on le voit ce choc frontal entre lui finalement ce qui l'amuse. Le terme peut paraître choquant, mais je parle de mon personnage. Ce qui l'amuse dans cette extrême droite là, c'est qu'elle est quasiment folklorique. Et ce qu'il voit arriver avec au moment de la scission à la fin des années 90, ce qu'il voit arriver avec non sans une certaine inquiétude, ce sont des espèces de technocrates froids, compétents, avec un corpus idéologique très précis qui là pour le coup mérite qu'on s'inquiète parce que justement eux sont présentables en plus. Les autres sont moins dangereux mais sont pas présentables mais finalement moins dangereux sur le fond historiquement, tandis que les autres sont très présentables mais alors là pour le coup ont une idéologie qui, d'un point de vue, une idéologie raciale, clairement, avec persuadé que la supériorité de la race blanche et l'économie de marché.
Je pense que c'est un des points forts du livre, effectivement, la mise en évidence du fonctionnement, de l'histoire de cette extrême droite et les mœurs qui sont afférents. Alors, il y a un contexte politique dans lequel tu situes la possibilité de l'arrivée du Front National au pouvoir.
Du bloc patriotique, oui.
C'est
un roman.
Patriotique. Pardon, c'est la systématisation des émeutes dans les banlieues. Bon, alors il y a un truc qui est bien vu dans le livre, c'est de partir d'un fait connu de tout le monde, c'est qu'on avait fait une comptabilité du nombre voilà. de voitures
je te remercie d'avoir vu le truc,
incendiées. Voilà. Et ça, c'est fort, quoi. Maintenant, dans le roman, c'est le nombre de morts. Voilà. Affiché en permanence dans les télévisions. Ce qui rend le scénario possible, imaginable et crédible.
Bah, ouais. Oui,
vas-y, si, Jérôme.
Non, si t'avais pas terminé, mais c'est vas-y.
Mais est-ce que en repassant du roman à la réalité, est-ce que la venue du Front National comme force de recomposition finalement de la droite, ce serait pas plutôt un échec de la droite classique plutôt qu'une situation comme ça explosive qui en même temps est mise en scène?
Oui, mais alors ce que j'imagine dans le roman, parce que j'ai besoin de cette situation de crise extrême au début pour que justement la dynamique romanesque se mette en place, et puis la question de savoir qui, si Stanko ou pas, c'est pas dévoiler le roman que de le dire, mais si Stanko ou pas va être éliminé parce qu'il a été trop témoin justement.
Il peut pas être blanchi.
C'est l'éternel cocu de l'affaire lui, de toute façon. Alors. Moi, déjà, il y a deux choses. C'est que j'ai un précédent roman qui s'appelle Monnaie Bleue, où déjà, je mettais en scène des émeutes urbaines. Moi, c'est quelque chose, et c'est pourtant un roman qui datait de 97. Moi, je me rappelle, enfin, la première fois que j'entends parler d'émeutes urbaines, c'est quand même très vieux. C'est avant, d'ailleurs, c'est avant la marche des beurs en 83. C'est-à-dire, il y a des émeutes aux Minguettes, dès le début des années 80. Bon, il se trouve que j'ai le sentiment, sans être un complotiste ou un paranoïaque, enfin raisonnablement, que ces émeutes sont instrumentalisées, que l'insécurité est instrumentalisée, donc les émeutes sont instrumentalisées. Ceci étant dit, j'imagine simplement qu'à force de jouer avec le feu, un gouvernement de droite classique qui joue dans le sécuritarisme le plus total peut finir par être débordé par la situation. Et ce que je constate, c'est que l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir toute seule. Et en ce moment, en Europe, elle est un peu partout, appelé aux affaires. Alors, sous des formes différentes, mais enfin, il y a énormément de pays en Europe, aujourd'hui, qui ont l'équivalent de nos bloquistes dans leur gouvernement. Donc, pourquoi pas chez nous ? D'autant plus que c'est un roman d'un présent alternatif ou d'un futur proche, comme vous voulez, mais d'autant plus que la porosité idéologique entre la droite classique et l'extrême droite en France me semble être un secret pour personne. Enfin, on voit très bien comment les uns et les autres chassent sur le territoire des uns et des autres. J'ai dit par boutade une fois, vous avez peur de l'extrême droite au pouvoir, vous avez tort, elle y est déjà. Mais quand on entend un ministre de l'Intérieur comme le nôtre actuellement parler de la façon dont il parle, je pense que même d'une certaine manière, l'extrême droite n'oserait pas. Parce qu'elle est l'extrême droite. Et qu'elle aurait une espèce d'inhibition, en disant sinon on va se retrouver au banc de l'Europe entière. Mais moi, ce que j'ai vu depuis 2 ans en matière de sécurité, s'apparente pour moi à une politique d'extrême droite. Donc finalement, les amener vraiment au gouvernement pour essayer de sauver la baraque, parce que là où tu as raison, c'est qu'effectivement, c'est un échec. C'est un échec de la droite, Donc la droite, elle va se tourner vers quoi ? Pas vers la gauche pour faire un gouvernement. Pas cette droite-là, en tout cas. Pas vers la gauche pour faire les sociodémocrates pour ne faire je ne sais quel gouvernement d'union nationale. Non. Ils vont évidemment, comme partout en Europe, se tourner vers l'extrême droite qui va devenir présentable. Et le roman, finalement, c'est un roman noir parce qu'il imagine comment elle finit de se rendre présentable à travers quelques ultimes sursauts de violence pour régler les comptes avec son passé. Finalement, je ne fais que dramatiser dans ce roman un processus qui me semble de toute façon idéologiquement à l'œuvre dans la société aujourd'hui.
Mais moi, je vais revenir un peu sur le début. Effectivement, Jean a eu raison de pointer la première phrase. Finalement, tu es devenu fasciste à cause d'un sexe de fille. Donc, c'est Antoine Ménard. Hein, c'est une éminence grise. Hein, c'est quelqu'un qui écrit des discours pour le bloc. Alors, comme première phrase, moi, je l'ai aussi perçu. Je me suis dit, tiens, donc c'est quelqu'un qui se regarde, quoi, qui se regarde dans la glace et qui doute. Hein. Et de l'autre côté, on a effectivement l'autre personnage qui, lui, ne doute pas, hein, Stanko. Mais au final, quand on ferme le bouquin, c'est un peu l'inverse, quoi. Celui qui doute, hein, c'est Stanko. Et c'est pour moi, hein, celui qui doute pas du tout, c'est Antoine Ménard. Avec quand même une... une difficulté, cette première phrase, ça aurait pu être finalement, tu es devenu communiste à cause d'un sexe de fille. Hein, d'autant qu'Antoine Ménard, son grand-père est communiste.
Ouais. Et donc, enfin, c'est un peu plus compliqué. Le grand-père est devenu communiste, c'est des choses que j'ai vues dans l'ouest de la France. Ouais. Que, effectivement, c'est plutôt des démocrates chrétiens, etc. Mais quand ils se sont retrouvés à vouloir rejoindre une résistance organisée, il se trouve que ça a été une résistance communiste.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a un parallèle établi entre des engagements qui sont complètement opposés mais qui s'appuient sur un engagement on va dire dans une voie politique pure.
Eh ben je pense que par exemple quand tu fais la phrase finalement tu es devenu communiste à cause d'un sexe de fille, je pense que ça peut être vrai un moment mais ça durera pas. C'est-à-dire que parce que le communisme c'est un engagement politique fondé profondément idéologiquement, sinon on le reste pas longtemps, tandis qu'il y a dans le fascisme, alors faudrait en plus s'entendre sur ce que recouvre le thème, etc., une dimension une dimension qui est de l'ordre du côté du dimension aventurière, esthétisante, avec un culte, une fascination pour une certaine littérature, une certaine façon de un certain rapport au monde, qui fait qu'effectivement, parce que tu dis Ménard doute pas, enfin il a toujours douté, donc il doutera pas plus ni moins à la fin, il est juste lâche jusqu'au bout en laissant tomber son copain, mais en laissant tomber Stanko, mais pour le reste, si tu veux, ce personnage-là, c'est, je sais pas si on vraiment devait le comparer à quelqu'un. Moi, enfin, c'est-à-dire que en dehors du fait que des éléments biographiques ponctuels, à savoir le Rouennais, les années 80, en même temps, quand j'ai écrit un roman qui s'appelle La Grande Môme, un polar jeunesse, il se passait aussi à Rouen et la narratrice était aussi une fille de 16 ans. Donc on m'a jamais demandé si j'étais une fille de 16 ans. Donc là, c'est bizarre qu'on me le demande. C'est ce que je veux dire. Je suis capable de faire parler. Un écrivain, c'est ça. C'est un type qui est capable de se mettre à la place d'une fille de 16 ans et que ça semble crédible sur 150 pages. Et je te dis, on m'a jamais demandé si j'étais une fille de 16 ans. Bon, ben là, pour Ménard, moi, je veux bien répondre jusqu'au bout à la question. C'est des gens que j'ai connus, ces composites, etc. Alors, évidemment, on peut dire, il y a toi, parce que c'est des écrivains que tu lis, enfin, pas tous d'ailleurs, mais moi, le personnage à qui me fait le plus penser Ménard, je me suis dit, mon idée pour bien me le situer, une fois que je l'avais mis à Rouen, dans les années 80, qui sont aussi la ville que j'ai connue à la même époque, c'était Drieu La Rochelle. Voilà, qui est un écrivain qui, justement, aurait très bien pu écrire « Finalement, tu es devenu fasciste à cause d'un sexe de femme ou de fille », qui y a cru qu'à moitié, qui était pas plus convaincu que ça, avec en même temps un certain culte de la force, de l'héroïsation de la guerre, etc., qui sont des invariants d'extrême droite et du fascisme. Mais ceci étant dit, dans le genre idéologue, il a jamais été très fiable. C'est-à-dire que c'est pas un acharné, au point que, par exemple, Malraux lui avait proposé de s'engager dans la deuxième DB en 45 en disant vas-y, on va oublier, tu fais une belle campagne comme t'as fait en 14 et tout sera oublié. Bon, et puis en plus, il a été jusqu'au bout d'une certaine logique, ce qui était à moitié dépressif, etc. Il s'est suicidé. Voilà. C'est lui, Ménard. C'est à lui que c'est un Drieu moderne, Ménard, pour moi. Voilà. Alors, si un personnage que je pourrais plaindre, et c'est marrant parce qu'on me pose souvent les questions sur Ménard, mais sur l'autre, parce que moi je trouve qu'au bout du compte, mais ça m'a échappé pour le coup, parce que Ménard, tout est contrôlé. Il n'y a pas de l'inconscient qui parle. Pour Stanko, c'est ma capacité, et là, c'est des divergences d'appréciation dans la façon dont on peut mener le combat contre l'extrême droite, c'est que moi, Stanko représente parfaitement la victime. Il est la victime totale, c'est-à-dire qu'il est la victime d'une part, d'un système capitaliste qui commençait à se mondialiser. Je raconte la fin du Zinor, en fait, que j'ai pu connaître par ma belle famille, pratiquement en prise directe. Donc, il est victime de cette fin du Zinor, mais il est victime aussi, et c'est là que ça accroche, que on se permet des petites parenthèses dans certains articles en indiquant que je connais bien mon sujet, peut-être trop bien. Canard enchaîné. Mais moi, je peux y faire face très simplement parce que, d'abord, je trouve absurde de reprocher à un écrivain de connaître trop bien son sujet. C'est-à-dire que moi, c'est 90% de documentation, 10% d'intuition. Et on me reproche pas finalement de dire que moi, finalement, oui, effectivement, j'ai pas peur de le dire, Stanko est une victime. Mais ce qui gêne, c'est que c'est non seulement une victime du capitalisme mondialisé, mais c'est la victime de la démission d'une certaine gauche, qui finalement s'est préoccupée de problèmes sociétaux, voire environnementaux, mais a complètement oublié les classes populaires. La gauche sans le peuple. Alors après, il ne faut pas s'étonner qu'une partie du peuple fasse absolument n'importe quoi. Et s'il y en a vraiment un qui est... Alors c'est ça, je sais que quand je dis ça, ça je gratte la plaie ou ça fait mal. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait mal de renvoyer à la tête de Cohn-Bendit, par exemple, de renvoyer dans la tête que bah, finalement, depuis quand il n'a pas prononcé le mot ouvrier, Cohn-Bendit ? Depuis quand ? Par contre, à côté, en face, au bloc patriotique, ils le font tout le temps. Alors on me dit c'est du populisme. Bah oui, mais enfin le problème c'est qu'ils le font tout le temps. Les 40% viennent pas de les 40% dans certaines villes de notre région ne viennent pas d'un brutal d'un virus qui le fascismus qui aurait été implanté dans la population. Non, il y a des causes explicables et une de ces causes c'est la façon dont une bonne partie de la gauche a oublié le peuple. Point. Alors ça effectivement comme par hasard là. Quand je raconte ça dans ce roman, on fait semblant de s'intriguer sur Ménard, n'y aurait-il pas une certaine ambiguïté entre Ménard et vous ? Par contre, mais le vrai reproche, il est sur l'analyse que je fais de qui est Stanko et de comment on a fabriqué ce monstre. Et de comme dit quelqu'un qui a été également critiqué parce qu'il a abordé le problème de la banlieue un peu différemment, à l'occurrence Thierry Jonquier, pourquoi ils sont notre épouvante et que nous sommes leur crainte ou le contraire, je ne sais plus. Voilà.
Noir c'est noir, spécial Jérôme Leroy, à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Le Bloc. Mais avant d'y revenir, donc un petit choix musical, clin d'œil, et notamment, j'ai pensé à ça en me remémorant la minute prescrite pour l'assaut, ouais. Hein, où donc Jérôme...
Mon précédent gros roman, 2008, qui raconte la fin du monde, mais de manière assez joyeuse, et qui est dédié à mes deux idoles, dont une a disparu, c'est-à-dire Amy Winehouse et Hugo Chavez.
Voilà, donc on vient d'entendre. Alors j'ai choisi un titre qui n'est pas forcément le titre le plus connu. You know I'm no good. Hein.
Oui, donc c'est que je ne suis pas bon.
Voilà. Hein, donc,
c'est bon en anglais. Hein.
Est-ce que ça résonne un petit peu particulièrement pour toi ce...
Ah bah tu sais que c'est que la citation de, il y a deux citations en exergue du Bloc. Il y en a une qui est d'Eddie Mitchell qui est je vous dérange, fallait pas m'inviter. Ça pourrait être de Stanko. Il y en a une autre de Wittgenstein sur les gens qui veulent savoir quelle cible j'ai voulu atteindre, s'ils s'en donnent la peine, ils le verront. Donc voilà, c'est-à-dire qu'après, les moyens que je prends, on peut en discuter. Oui, je pense qu'en plus, c'est de toute façon, c'est parler de l'extrême droite, c'est parler aussi de la part de négatif en chacun de nous. Mmh. C'est-à-dire que c'est notre ça. En termes psychanalytiques. Voilà, on a tous un ça. Il faut savoir que l'extrême droite, à mon avis, qui domine. Mais pour parenthèse, en me disant, oui, parce que je repensais à ça à propos de Amy Winehouse et de quelques autres choses, j'ai un copain qui m'a dit, de toute façon, on va pas pouvoir t'accuser de dire que t'aimes bien tes personnages, puisque ils écoutent pratiquement pas de musique et ils boivent du mauvais vin. C'est-à-dire que moi, d'habitude, par exemple, tu parlais de la minute prescrite pour l'assaut, j'avais fait aussi un catalogue de tous les vins que j'aime boire. Mmh. Là, si tu veux, il n'y a aucune... voilà, donc je ne m'en ai pas aperçu de ça, mais effectivement, j'ai refusé quand même de leur donner mes vrais plaisirs. Voilà.
Alors, la cible, bon, elle est repérée. Hein. Je pense qu'il n'y a pas... il n'y a pas du tout d'interrogation par rapport à ça. Il y a peut-être deux... Enfin, bon, il y a une analyse politique de la situation. Hein, on a commencé à l'évoquer, puis on recommençait aussi à en parler en off sur l'analyse hein, de cette montée de l'extrême droite dans la classe populaire, les classes ouvrières. Mais il y a aussi, donc, bon... le fait que quelque part quand même, et ça a été dit dans un article je pense du Monde, dont effectivement c'est pas une lecture confortable, donc tu viens de le dire hein, donc mais elle fait émerger
ouais, enfin, mais moi par exemple je sais pas les 120 journées de salaud de Pasolini qui est un de mes modèles, parce que moi je me sens communiste pasolinien, est-ce que c'est d'une vision confortable?
Non, c'est une vision insupportable.
Nous sommes d'accord. C'est une vision insupportable. Il n'empêche que c'est un film qui me semble un des grands films de l'histoire du cinéma. Et est-ce qu'on a soupçonné 30 secondes Pasolini d'être fasciné par son sujet et en même temps le film plastiquement. Je suis désolé de vous le dire, le film plastiquement est beau. Le film plastiquement est beau, parce que le problème c'est que on sombre vite dans le catéchisme, c'est-à-dire que l'esthétique, Hegel dit une phrase assez simple mais je trouve lumineuse à propos de l'esthétique, c'est que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. C'est-à-dire que moi, il s'agit de donner... mon sujet n'est pas beau, mon sujet n'est pas bon, mon sujet n'est pas... Enfin, pas bon, j'entends, n'est pas du côté du bien. Mais ceci étant dit, si je veux en parler, il faut aussi que je sois lisible, ou en tout cas que je fasse un bon livre. Un bon livre pour parler du mauvais, voilà, du mal. Mais je crois pas que ce soit du mal en plus, mais du négatif, disons. Voilà. Et bah, par exemple, moi, je conçois tout à fait que la lecture soit gênante. Moi, je prends mes lecteurs pour des adultes. C'est-à-dire que je suis pas là pour vous apporter de bonnes nouvelles. Après. Faut pas confondre la mauvaise nouvelle et le messager comme dans l'Antiquité où on tuait le messager, le porteur de la mauvaise nouvelle. Non, voilà, je vous apporte une mauvaise nouvelle. Mais c'est même à mon avis plus généralement le travail de l'écrivain, de la littérature, c'est de mettre dans l'inconfort.
Non, mais je pense qu'on est, on est d'accord. Il n'y a aucun,
non, mais là, mais même,
aucun doute hein, par rapport à l'objectif. Mais tu, d'ailleurs, tu l'as dit toi-même en, en début de rencontre. T'as pas écrit ce bouquin pour tout le monde. Et je me dis, quelque part, t'as pas écrit ce bouquin pour des futurs Stanko.
Ah ben non, mais c'est le problème, c'est que les futurs Stanko. Non, mais les futurs Stanko, par exemple, je pense que ça serait d'une grande. Alors justement, c'est le contraire du mépris que je vais dire. C'est d'une, serait d'une grande irresponsabilité politique que de donner ce livre-là tel quel. D'abord, je suis pas sûr que ça passerait le. Il y a un certain, toute une série de problèmes qui sont de référence culturelle, politique, historique, etc. Par contre, effectivement, c'est renvoyer ce livre à ma propre classe sociale, enfin à ma propre mon propre environnement culturel qui est souvent toi, Jean, moi, Boris, bonjour, bonsoir Boris, et qui est où on est finalement très vite persuadé d'être le camp du bien, très vite et très vite sans qu'on le veuille vraiment, on a vis-à-vis des classes populaires, on se place en donneur de leçons et ça me dérange profondément, voilà. Je ne suis pas un donneur de leçons et je pense que même on n'a pas de leçons à donner, nous qui sommes relativement protégés, à une, on a à faire de la politique avec ces gens-là, mais pas de la morale. Voilà.
Jean.
Oui, tu disais tout il y a peu de temps là que le livre annonçait une mauvaise nouvelle. Bon, on voit laquelle, la montée du bloc. Je pense que le livre a une autre force, c'est que cette nouvelle soit plus large que celle-là, à savoir qu'il y a un monde qui a disparu. Mmh. Alors c'était déjà présent dans tes précédents ouvrages, et puis j'y ai fait référence au départ. C'est un peu toute l'école des éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, hein, sur le monde d'avant, le monde d'après. Un monde a disparu, hein, et il y a un certain nombre de phrases, de descriptions dans le livre qui montrent cette disparition d'un monde. Et j'ai relevé une qui m'a particulièrement intéressé, c'est depuis quand peut-on voir une femme manger un sandwich dans la rue en marchant, hein, je crois, avec la sauce blanche qui dégouline, hein, et tu dis ça c'est un changement de...
Oui, parce que comme d'habitude, très souvent, les... Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que de même d'ailleurs que je parlais du choc culturel entre les deux extrêmes droites, il y en a une qui représente une qui est l'extrême droite du monde d'avant, qui est celle, je disais, foutraque, etc. Et puis celle qui est du monde d'après, technocratique, froide. Bah, c'est la même chose sur l'ensemble de la société. C'est-à-dire que moi, il y a un moment de bascule que je cherche de manière d'ailleurs obsessionnelle, parce qu'il n'y a peut-être pas de date où ça bascule précisément. Enfin, en gros, ça se situe très nettement autour des deux chocs pétroliers des années 70, où tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Non, mais plus sérieusement, où tout ce qui était de l'ordre des rapports sociaux, ce que Orwell appelait la common decency aussi, le savoir, enfin, une certaine façon de vivre ensemble, d'être dans une société, même si elle était, je me fais pas d'illusions, j'idéalise pas le passé, même si elle était divisée en classes, où malgré tout, il y avait encore l'impression de vivre dans un espace commun, dans la cité, tout ça a disparu. Alors, moi, ce que je fais depuis, de manière obsessionnelle, depuis peut-être une quinzaine d'années, depuis que j'ai cette intuition, qui d'ailleurs s'est trouvée dans les livres de l'Encyclopédie des Nuisances, Reim et Semprun ou Baudouin de Bodina, moi, je collige les petits faits comme ça, qui tout d'un coup, je me dis, mais attends, ça nous semble normal, mais non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en arriver à se dire que des gens mangent debout, maintenant le midi, parce que ça va plus vite, m'indique une forme de disparition, le mot était tellement galvaudé, mais de lien social, le simple fait de s'asseoir et de le manger, son sandwich assis, en buvant et en discutant, plutôt que de se promener avec son sandwich debout et un iPod à fond. Voilà, c'est-à-dire que c'est effectivement, j'en ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de... Si on se promène dans une... On voit notre misère quand on se promène à midi dans une grande ville, où on voit quand même une belle collection de zombies. Et je vois pas pourquoi ces gens-là, finalement, mangeaient un sandwich debout, ça induit une conscience politique totalement ennaufragée. Et j'exagère à peine, c'est-à-dire que je fais exprès un peu de provoque. Mmh. Mais, et puis, effectivement, je vois pas pourquoi c'est sur ces gens-là que je compterais ou qu'on pourrait compter si, effectivement, la droite demandait à 10 ministres du Bloc d'entrer au gouvernement à la faveur d'émeutes dans les banlieues, ce qui est la situation de départ du roman. Voilà. Mais tu as raison, mais sur plein de faits comme ça font que j'ai l'impression effectivement qu'on a changé de monde et que dans ce monde-là, que Debord appelait la cité spectaculaire, finalement tout est possible. Hein. C'est-à-dire qu'il le dit bien dans le commentaire sur la cité du spectacle, finalement, en plus c'est là que l'extrême droite ne s'aperçoit pas à quel point elle est. Enfin, eux, s'il y en a certains qui ont peut-être envie d'aller à la soupe, mais en admettant qu'il y en ait quelques-uns qui soient vraiment convaincus, à quel point cette extrême droite est totalement instrumentale. Enfin, moi, je sais très bien que c'est le fauné du capitalisme, c'est-à-dire que de temps en temps, le capitalisme a besoin de devenir profondément autoritaire, c'est-à-dire d'oublier que le libéralisme va en théorie avec un libéralisme politique, et a besoin de l'extrême droite à des moments ponctuels de l'histoire. Pour maintenir, enfin pour empêcher l'explosion des révoltes que créent les inégalités. Donc l'extrême droite sert à ça en fait. Voilà, a toujours servi à ça d'ailleurs.
Jean,
oui, non,
un dernier mot sur le bloc.
Non, on va pas poursuivre, je pense, mais je pense qu'il resterait pour compléter cet entretien, un débat finalement qui serait nécessaire sur la responsabilité des gauches,
des gauches
au sens large, oui. dans la montée du Front National. On peut pas se satisfaire simplement.
Non, non, mais tu as raison.
D'exonérer
le Parti communiste. Mais étant communiste, j'ai pas peur de dire que ma famille a aussi sa part de responsabilité dans le phénomène. Ceci étant dit, ça prouve d'une certaine manière que, pour reprendre la citation de Wittgenstein au début, j'ai dû toucher un peu ma cible, puisque ça permet, contrairement à d'autres romans ayant parlé de l'extrême droite de manière extérieure et politiquement correcte, ça, apparemment, on lance le débat politique. Et si le roman peut servir aussi à ça, moi je suis pas mécontent. J'ai touché la cible.
C'est l'objet aussi de l'invitation. Hein.
Voilà.
Et donc voilà. Alors,
mais je suis prêt à rentrer ces jours avec Jean et toi dans un débat de fond sur quelles sont les responsabilités effectivement qui font qu'un parti qui devait faire à l'époque où Antoine Ménard y adhère doit faire 2% et où le président est incapable de réunir les 500 signatures pour les présidentielles a en 2011 un parti qui représente un Français sur 5 ou presque et qui est arrivé une fois au deuxième tour des présidentielles.
Alors avant de se quitter, Jérôme, un mot quand même, c'est avec ce roman tu fais aussi ton entrée dans la série noire chez Gallimard. Alors on en a parlé, c'est plus la série noire de Marcel Duhamel et etc, mais c'est quand même important pour toi.
Je pense à mon grand-père instituteur qui serait tellement content, même si c'est la série noire, de voir NRF marqué dessus, parce que c'est le côté c'est l'incarnation. Bon, toute personne qui écrit se dit à un moment donné ou à un autre, Gallimard, c'est quand même la c'est pas l'expression, pas de moi, je sais plus de qui elle est, mais la banque centrale, c'est-à-dire que c'est pas au point de vue financier, mais au point de vue rayonnement. Et puis effectivement, je suis content d'être dans une collection qui est quand même celle qui a édité Dashiell Hammett, qui lui ne faisait pas non plus de morale.
Alors, pour conclure, justement, dans cette collection, là, dans la série noire, il y a pas mal de bouquins qui sont sortis récemment, des polars politique-fiction, je pense à L'Honorable Société, Préparer l'Enfer, Thierry Di Rouleau, puis il y en a d'autres dans d'autres collections. Alors, est-ce que le roman noir, c'est, de ce point de vue-là, un outil littéraire particulièrement adapté à aborder ces questions pour toi?
Oui, pour moi, je pense que tu tout de suite autour de la table, et toi en particulier, tu sais très bien que ce qu'on aime, c'est pas le roman policier. D'abord, on n'aime pas l'adjectif, c'est le roman noir. Et que plus que jamais, il prouve son utilité. Alors, peut-être ce qui est un peu nouveau, c'est que, notamment à la série noire d'ailleurs, il y a des auteurs qui justement abordent les problèmes de manière beaucoup moins politiquement correct. Je sais bien que l'expression est un peu galvaudée, mais hésite pas à pas forcément brosser dans le sens du poil. On peut penser à Dewa, par exemple, ou à Antoine Chénas, qui sont finalement, ça va, c'est, ils reflètent à mon avis la complexité des enjeux et des luttes aujourd'hui.
Ben Jérôme, merci. Donc c'était Un Noir, c'est Noir consacré en grande partie au dernier roman, à ton dernier roman, Le Bloc, que vous trouverez chez Gallimard dans la collection La Série Noire. Try to make me go to rehab.